Le débat du jour. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. On évoque ce soir, dans le débat du jour, les bouleversements annoncés au sein de l'Église catholique. Car une réforme est en cours, elle est présentée comme la plus importante du pontificat de François. C'est le synode sur l'avenir de l'Église. Il doit, ce synode, s'achever en octobre 2023 à Rome. Et d'ici là, eh bien, les églises du monde entier recueillent les cahiers de doléances exprimés par les croyants. Et le moins qu'on puisse dire, eh bien, c'est que ces doléances sont radicales. À en juger, la synthèse qui a été présentée il y a quelques jours par la conférence des évêques de France, qui a fait remonter les demandes des diocésains, et sont notamment évoquées eh bien, le mariage des prêtres, l'ordination des femmes, ou encore le souhait de relations moins hiérarchique entre les clercs et les laïcs. Alors dans cette émission, on va présenter ces propositions, on va les détailler et on va les confronter à l'Église. Comment l'Église peut entendre ces doléances? À quelle réforme faut-il s'attendre? Soyez les bienvenus.
RFI.
Et pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio, Père Grégoire Cata, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes donc prêtre jésuite, directeur du service national famille et société à la conférence des évêques de France que j'évoquais à l'instant. Marie-Autonne Thépeau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes catholique, vous êtes membre du collectif Toute Apôtre qui a été créé en juillet 2020 et qui demande eh bien, que les femmes accèdent à des postes qui sont aujourd'hui réservés au clergé masculin. Vous nous en parlerez. Céline Béraud, bonsoir.
Bonsoir.
Vous, notre troisième invitée, sociologue, directrice d'études à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, membre du CESOR, le centre d'études en sciences sociales du religieux, et je cite votre livre, Le catholicisme français à l'épreuve des scandales sexuels. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour. Alors d'abord, je voudrais commencer par un constat, Père Grégoire Cata. De nombreux observateurs affirment que l'Église catholique est en crise. Est-ce que vous êtes d'accord et en quoi l'Église catholique serait en crise?
En crise, probablement qu'elle l'est depuis sa fondation, quoi, depuis que quelqu'un appelé Jésus-Christ a vécu en Palestine il y a 2000 ans, en crise au sens que elle se transforme et elle est appelée à évoluer. Est-ce qu'elle est davantage en crise qu'avant? Oui, peut-être. Il y a des questions quoi, qui se posent. Mais l'intérêt de parler de crise, c'est que quelque chose qui renaît et qui doit être appelé à se transformer. Quoi. Voilà. Mm. Et donc ça, je crois que oui, l'Église toujours en transformation et appelée à se transformer en se mettant à l'écoute. Alors nous, les chrétiens dans l'Église, on va dire, se mettre à l'écoute de l'Esprit, quoi, de l'Esprit qui souffle. Et voilà, et c'est pas toujours évident de se mettre à l'écoute de l'Esprit qui souffle, mais si on s'y met à l'écoute, ben on est bousculé, on est ballotté à certains moments, et puis à d'autres moments, il y a de l'harmonie aussi qui naît.
Marie-Autonne Thépeau, vous diriez que l'Église est en crise ?
Moi, je dirais qu'on a besoin de la transformer et de la bousculer. Et donc, je reprendrai exactement les mêmes termes, parce que le pape François a remis le dialogue vrai au sein de l'Église. Alors, ça amène du bazar, oui. Et le bazar, c'est bien, c'est bon, c'est de la diversité. Et c'est ça qui fait qu'il y a une attente criante de se remettre en permanence en disant notre Église du Christ, elle est là pour proclamer un message et pour le faire advenir ensemble. Mmh. Et qu'il faut qu'on se transforme, qu'on se laisse transformer et qu'on dise qu'il y a des choses qui ne nous conviennent pas, qu'on le dise et qu'on le fasse advenir ensemble.
Concrètement, comment ça se manifeste, comment ça se traduit, ce dialogue qui a été remis au goût du jour par le pape François?
Alors, je laisserai. Alors, je suis moins qualifiée que à la fois mes deux interlocuteurs sur ce qui se passe au Vatican,
mais
le synode, la notion de synode.
Déjà.
Mmh. En tant que pratiquante, en tout cas, très récemment, ça fait. Donc, vous l'avez dit, notre collectif, il existe depuis 2 ans. On s'est invité un peu à la fête en disant. Voilà, moi, Marie-Autonne Thépeau, catholique pratiquante, en fait, je suis là, nous voici, avec Hélène, Loane, Sylvaine, Claire, Laurence, Christina, à la suite d'Anne Soupa, on est là. Et qu'est-ce que vous faites de ça? Et donc, cette audace-là, qui s'est un peu
alors, on est, je vais juste préciser pour oui. Nos auditeurs, on est là, vous faites référence au groupe de 7 femmes dont vous faites partie, vous en avez cité d'autres, qui ont déposé, il y a près de 2 ans, c'était en juillet 2020, une candidature à des postes de curé, de diacre, d'évêque, bref, des postes qui sont réservés aux hommes.
Tout à fait. Et ce « nous voici », il engage en disant mais qu'est-ce que notre Église, parce que c'est notre Église, fait de ces talents, de ces dons, de cette énergie, de cette volonté d'être dans l'Église du Christ, femme et homme, dans cette diversité-là. Et que pour nous, la discrimination faite aux femmes au sein de l'institution, elle constituait elle constitue toujours un scandale auquel il faut mettre fin. Donc c'est ça notre élan qui nous a soulevé, mais dans l'Église. L'idée, c'est de rester dans l'Église et de dire voilà, comment on fait advenir une vraie diversité. Et cette diversité, elle est bonne. C'est la biodiversité, on l'appelle de nos voeux, mais ça s'organise, évidemment, et ça s'organise, et je dois saluer effectivement le dialogue vraiment nouveau qui est né lors de la démarche synodale en France, où beaucoup d'entre nous sont dit, et toutes les personnes qui ont eu des luttes, femmes et hommes, pour faire avancer les choses jusqu'à présent, disaient, ça va être une énième tentative de s'exprimer, et ça va être édulcoré, ça va être, tout ça va être lissé. Eh bien, je dois dire que d'abord, ça a été extrêmement bien organisé, fait avec confiance, audace, et que ce dialogue-là, il a pu avoir lieu. Et non seulement il a pu avoir lieu, mais il a été traité, et on a repris des verbatims, des mots qui disent effectivement, puissamment, franchement, ce qui fait débat et ce qui est dans l'Église qui doit trouver une solution concrète ensemble.
Alors on va évoquer évidemment les demandes d'évolution, on va lentement s'arrêter sur la question de la femme qui était évidemment évoquée. Encore sur le constat, Céline Béraud, j'aimerais qu'on boucle ce tour de table. Je posais la question d'une Église catholique en crise. Un dialogue instauré, nous dit Marie-Auton Thépeau, par le pape François.
Oui, cette démarche synodale, elle prend place dans le sillage immédiat quand même de la remise d'un rapport qui a été une onde de choc très très puissante. Le rapport de Jean-Marc Sauvé sur les abus sexuels dans l'Église qui a été remis tout début octobre de l'année passée, qui s'inscrit dans un moment d'éclatement des scandales sexuels dans le catholicisme français. Ça pointe fin 2018, début 2019. Et ce scandale qui n'avait pas encore éclaté en France alors qu'il avait éclaté dans de nombreux autres pays. Il y a plusieurs vagues aux États-Unis, il y a eu l'Australie, l'Irlande, l'Allemagne quelques années avant la France, et bien ce scandale, il ouvre une sorte de fenêtre d'opportunité à l'expression de demandes de changement qui ne sont pas nouvelles, parce que la question de l'accès des femmes au diaconat et plus largement au ministère ordonné, la question de relations qui seraient dans un meilleur dialogue entre prêtres et laïcs, le statut du prêtre, tout ça, c'est des questions qui sont des questions tout à fait fondamentales dans le catholicisme et qui ont été débattues beaucoup depuis le Concile de Vatican II, depuis les années, donc la fin du Concile 1965, mais qui ensuite ont été un petit peu mises sous le tapis, probablement par une forme de paralysie ou peut-être d'autocensure de certains catholiques, peut-être aussi par une forme de droitisation du catholicisme français qui ne valorisait plus du tout le changement et au contraire en appelait toujours au respect d'une pseudo-tradition. Et là, ce que changent les scandales sexuels, donc c'est en ça où la crise est peut-être une chance aussi pour l'Église catholique, c'est que ça fait... ça a permis une forme de foisonnement un peu intellectuel. Le débat intellectuel a repris, surtout toute une série de questions sur lesquelles il était un peu atone, sur la question des ministères, sur cette question de la place des femmes qui, dans le catholicisme français, n'avait jamais eu la place qu'elle a pu avoir en Allemagne, aux Pays-Bas, au Québec, par exemple. Et donc là, il y a vraiment, c'est à la fois très dur pour les catholiques, je pense pour les fidèles, pour les prêtres, ces scandales sexuels, c'est vraiment un fardeau porté par l'Église catholique en France aujourd'hui, mais je crois qu'il y a aussi une chance en tous les cas, il y a un renouveau intellectuel, il y a une chance de débat, et c'est ce qui s'est passé dans cette démarche synodale, où ces questions sont apparues. Elles ne sont pas nouvelles, elles étaient déjà apparues dans les synodes dans les années 90-2000, mais là, la nouveauté, c'est peut-être qu'elles ont été davantage relayées par l'épiscopat, qui jusqu'à présent avait plutôt tendance à les euphémiser. Donc elles ont été davantage relayées, ce qui montre qu'elles ont une place dans l'opinion catholique, même si elles sont très controversées.
Alors, plusieurs de ces questions que vous évoquez, Céline Béraud, figure dans la synthèse d'une douzaine de pages que la Conférence des évêques de France, dont vous faites partie, Père Grégoire Cata, a présentée il y a une semaine, c'était le 15 juin. Cette synthèse va être envoyée à Rome. Elle a été rédigée à partir des propositions, je disais, en préambule de cette émission, des diocésains. Ce sont 150 000 personnes qui ont été mobilisées depuis octobre 2021 autour de ce synode et en vue de la fin de ce synode en octobre 2023 à Rome. C'est considéré comme la réforme phare du pontificat de François. Père Grégoire Cata, quelle est la question la plus importante ou les questions les plus importantes qui sont soulevées dans cette synthèse?
Alors, dans cette cette collecte, c'est plus et c'est différent d'une synthèse. C'est-à-dire que beaucoup de gens se sont exprimés et c'est ça l'enjeu de la démarche synodale. Ça veut dire faire église tous ensemble, marcher tous ensemble, réaliser que oui, il y a une structure hiérarchique dans l'église, mais il y a d'abord un ensemble de baptisés et tous les baptisés sont porteurs de l'esprit et tous peuvent parler. Donc voilà, il y a cette idée de parler tous ensemble. Et donc avant de faire remonter des choses, de faire des textes, de proposer des réformes, il y a cette expérience de s'écouter les uns les autres, quoi, et de se dire, quand on s'écoute les uns les autres, eh bien, on écoute l'esprit. C'est ce à quoi le pape François nous a invités, et c'est ce qu'on a commencé, enfin, ce qu'on expérimentait déjà avant, mais qu'on a vécu de manière un peu plus forte pendant toute cette phase synodale en France, mais qui ne s'arrête pas avec le fait qu'on a collecté des remontées et ça va aller à Rome. Ce qui est intéressant, c'est, je parle de collecte par rapport à synthèse, c'est pas pour chouiner sur les mots, c'est simplement pour dire, et ça a été précisé, c'est pas simplement essayer de faire le résumé du résumé du résumé, mais c'est faire ressortir quels sont les points les plus saillants, quelles sont les choses où on entend...
Et sans jugement, voilà. Vous avez repris.
Et sans jugement. Et donc, alors vous dites, moi j'y suis pour rien là-dedans, enfin simplement que comme baptisé et comme prêtre, j'ai participé et j'ai apporté ma contribution dans différents groupes. Mais c'est vrai que l'équipe qui synodale nationale, quoi, a récupéré les 110 remontées qu'elle avait. Pendant un week-end, voilà, ils ont travaillé ça, ils ont écouté, puis après, ils ont rédigé quelque chose qui se veut comme un écho. Et dans les autres pays, la même chose va se faire. Et c'est vrai qu'en France, ce qui s'est passé, c'est que les évêques ont accueilli cette collecte. Alors, ils n'ont pas accueilli tout seuls, ça s'est fait un rassemblement de tous les évêques de France, plus une centaine, 120, 130 non-évêques, des laïcs, des prêtres, des religieux, des religieuses. J'en faisais partie la semaine dernière. Et c'est vrai qu'on a accueilli ça, et voilà, on se laisse déplacer par ce qui arrive là. Et les évêques ont pris cette décision, on va envoyer la collecte à Rome. Et puis, ils ont simplement travaillé, en fait, ils ont travaillé avec nous, on a travaillé tous ensemble sur un texte qui va accompagner cette collecte et où ils pointent les choses qui, eux, les ont un peu plus percutées, les choses qui, nous ont plus percutées, puisque encore une fois, les évêques n'ont pas travaillé tout seuls, ils ont travaillé avec, j'allais dire, des non-évêques, des laïcs.
Voilà. Bah on va parler justement des laïcs, mais on se laisse dépasser, vous dites, ça veut dire que vous avez été surpris par les doléances. Voilà, c'est la question de ce soir. Est-ce qu'il y a un grand bouleversement en vue dans l'Église catholique? Est-ce que c'est ce qui ressort, ce bouleversement des doléances?
Non, je pense que c'est bien plus que des... C'est pas simplement des doléances, il y a beaucoup d'espérances, d'attentes, de choses qui sont pointées, qui existent déjà. Ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup la manière de faire aussi. Je dirais, dans le contenu, Céline Béraud l'a mentionné, il y a des demandes, des choses qui se manifestent dans l'Église déjà depuis de nombreuses années. Mais là, il y a une manière de faire, il y a une manière de prendre encore une fois ce soin d'essayer de s'écouter les uns les autres entre les plus progressistes, les plus traditionnels, les plus âgés, les moins âgés. Et on sait bien qu'on n'est qu'au début du processus, que tout le monde n'a pas participé de la même manière, que peut-être il y a des voix qu'on n'est pas encore capable d'entendre, que d'autres en entendent plus. Et puis, il va falloir écouter aussi, on est l'Église catholique, c'est pas l'Église qu'en France, dans le monde entier. Voilà. De quelle manière les autres, dans les autres parties du monde, voilà, des choses vont aussi remonter. Et puis comment on va continuer à l'enjeu, c'est pas une fois qu'on a fait remonter cette collecte, quoi. Ben, il s'agit aussi de continuer à travailler, puisqu'on a fait cette expérience de s'écouter les uns les autres, entre clercs et laïcs, enfin entre prêtres et laïcs, ben, il va falloir continuer à travailler comme ça. Moi, je le vois dans ma paroisse, la paroisse où j'aide le dimanche. Bah, voilà, les groupes synodaux qu'on a mis en place, on se dit, bah, il faut qu'on continue l'année prochaine. On va faire aussi des assemblées, on va les appeler assemblées paroissiales, quoi, tout au long de l'année.
Justement, sur la relation entre clercs et laïcs, ça fait partie des critiques évoquées. Trop de cléricalisme, pas assez d'horizontalité, des relations qui sont jugées trop hiérarchiques entre les clercs et les laïcs. Je vais donner plusieurs exemples. J'ai cité le mariage des prêtres qui est évoqué dans cette synthèse, l'ordination des femmes, des relations moins hiérarchiques entre les clercs et les laïcs, je l'ai dit, la possibilité pour les femmes de prêcher à la messe, le fait que dans le gouvernement de l'Église, eh bien, la décision finale ne soit plus prise uniquement par l'évêque ou le prêtre, dont on critique l'autoritarisme, et puis des messes qui minimiseraient le sacrement de l'Eucharistie, notamment parce que ce sacrement pourrait être considéré comme excluant pour les personnes homosexuelles et les divorcés remariés. Oui. Et vous faites la moue.
Oui, parce que enfin, voilà, les formulations, je crois que ce ne sont pas tout à fait les formulations qu'on trouve dans la collecte, mais c'est vrai qu'on pointe des lieux où il y a des souffrances et des attentes, des espérances. Mmh. Il y a des souffrances et une attente, bah oui, que la relation entre clerc et laïc soit plus de l'ordre de la fraternité, qu'on soit d'abord appelé à vivre cette fraternité de baptiser, quoi, avant d'avoir des relations hiérarchiques. La question de voilà, la place de la parole de Dieu, de l'écoute de la parole de Dieu, qui est-ce qui aide à entendre la parole de Dieu, à la commenter, bah oui, il y a des clercs qui ont cette mission-là dans la célébration de la messe, mais il y a aussi beaucoup de laïcs qui sont formés. Et puis, chaque baptisé prend aussi conscience que, comme baptisé, je suis porteur de l'Esprit, j'ai quelque chose à dire, j'accueille la parole de Dieu et je peux en dire quelque chose. Voilà. Alors, quelle forme ça peut prendre? Oui, ça peut prendre la forme, peut-être, de faire évoluer un petit peu la célébration de l'Eucharistie, mais aussi de se dire, il n'y a pas que la célébration eucharistique, il y a des célébrations d'autres modes de prière, d'autres modes de célébration de la parole. Ce sont des choses qui sont évoquées, quoi, dans la collecte et sur lesquelles on peut réfléchir et avancer et qui ne demandent pas pratiquer davantage des célébrations de la parole. Il n'y a rien qui nous empêche de le faire aujourd'hui, c'est pas un changement de doctrine, c'est pas voilà. Donc il y a des propositions comme ça, voilà, qui viennent dans la collecte et bon, qui sont à entendre.
Et donc il y a beaucoup de propositions sur la place des femmes, je l'ai dit. La synthèse évoque, je cite, une voix qui paraît ignorée, qui dénonce la criante disproportion entre le nombre de femmes engagées dans l'Église et celui de femmes qui sont en situation de décider. Marie-Autonne Thépeau, vous qui êtes membre du collectif Tout Apôtre, comment est-ce que vous accueillez ces doléances, cette synthèse?
Alors avec beaucoup de satisfaction. Parce qu'à vrai dire, il y a un an tout juste, nous demandions, c'était en juillet dernier, nous demandions que ce soit un sujet, en fait, un sujet ouvert dans l'Église de France. Et on nous avait rétorqué, circuler, il n'y a rien à voir, ce n'est pas un sujet. Les femmes sont omniprésentes dans l'Église de France et sont très contentes du sort qui leur est fait. Et c'était dit comme ça. Et donc on s'est dit, et nous, pourquoi on collecte des témoignages, des histoires qui sont pas du tout cohérentes avec ça, comment on le donne à voir? Mais de notre position de militant, on peut pas s'engager dans une démarche ecclésiale globale. Et c'est notre souhait aujourd'hui. Donc ce qu'on avait demandé l'année dernière à la Conférence des évêques de France, c'est de dire, s'il vous plaît, on vous dit qu'il y a un sujet, ouvrez une commission d'études pour faire le vrai du faux et pour objectiver le sujet de la place des femmes dans l'Église de France, qui n'est pas que l'accès au ministère ordonné. Je le précise parce que ce serait vraiment une erreur, je pense, et très dommage. Il se trouve que moi, c'est ma démarche aujourd'hui, c'est celle de mon collectif, de dire ça fait partie de l'accès à notamment des ministères donc ordonnés, qui sont notamment sur le volet spirituel. Mais il y a plusieurs ministères et il y a la place pour tout le monde, laïque, consacré, etc., dans la menée de cette Église. Et on sent des impatiences, de la souffrance, des choses qui sont pas ajustées, alors vraiment pas ajustées au message du Christ. Et du coup, ce contre-témoignage-là, ça ne va pas. Donc comment on fait? Donc on avait demandé cette commission et on nous a dit on y réfléchit. Et là, on se dit bon. Nous, on était quelques excités, visiblement, à dire « si, il y a un sujet », là, c'est beaucoup plus global, et on dit « on va y travailler ». Alors, chiche, travaillons-y, et partons effectivement d'une démarche beaucoup plus ecclésiale, c'est-à-dire ouverte, avec tout le monde, pour pouvoir conduire non seulement un diagnostic étayé, mais des propositions d'action. Parce qu'effectivement, si tout cela... ces espaces de dialogue qui sont ouverts, le fait d'entendre une colère, c'est important. Et je pense qu'il y a des mots, je rends hommage à tout le travail qui a été fait, et de garder des mots de colère, de cri, et de gens qui sont encore dans l'Église et qui disent « on veut y rester, on veut continuer, mais il va falloir qu'on cède ». Et ce n'est pas une mise en accusation d'une hiérarchie lointaine, etc. C'est en co-responsabilité. C'est-à-dire, on est là, il faut qu'on construise d'autres types de relations, un autre type de dialogue. Et ça vient aussi avec une gouvernance vraiment partagée. Et qu'aujourd'hui, effectivement, toute la gouvernance est verrouillée par une uniformité que sont des hommes célibataires ordonnés. Je caricature un peu le trait, parce qu'en effet... c'est beaucoup plus riche que ça et qu'il y a plein d'espaces d'église où se vivent, où se font des choses à bas bruit. Et l'idée, ce n'est pas de caricaturer, mais à un moment donné, oui, c'est pas parce qu'il se passe des choses extraordinaires qu'à un moment donné, il ne faut pas bouger, et bouger symboliquement, fortement, parce que les plus belles avancées qu'il y a dans les diocèses, dans les groupes, etc., à la merci d'un changement de curé, un évêque qui arrive qui dit non, vous êtes bien gentil, mais là on va arrêter tout de suite, c'est fini. C'est fini, rentrez chez vous. C'est d'une violence extrême. Donc il y a des choses qui vont devoir bouger dans l'Église de France et qu'on peut faire dans l'état du droit canon. Et puis il y a des choses qu'il va falloir faire bouger à Rome dans le droit canon, durablement, en profitant que le pape François soit encore en bonne forme.
Alors là, vous soulevez un point très important. Céline Béraud, vous qui êtes sociologue, membre du centre d'études en sciences sociales du religieux, est-ce que Rome peut entendre cette colère, ce cri qu'évoque Marie-Autonne Thépot, et comment ?
Alors, ce que souligne Marie-Autonne, c'est qu'il y a des choses qui relèvent effectivement des espaces nationaux, qui sont à la main des évêques, qui sont à la main des curés, qui sont à la main des communautés. Hein, et c'est toutes ces façons peut-être d'inventer des célébrations alternatives, de faire la place aux femmes dans les lieux où on prend des décisions. Hein, ils ne sont pas tous liés au fait d'être un clerc, donc notamment de déconnecter. Hein, c'est une des demandes d'Anne Soupa, hein, de déconnecter l'exercice des responsabilités de l'État clérical, c'est-à-dire d'ouvrir aux laïcs et donc d'ouvrir plus largement aux femmes toute une série de positions. Le pape François, il suscite beaucoup d'espoir chez ces catholiques réformistes qu'on entend aujourd'hui, hein, qu'on réentend.
Mais il suscite de l'espoir maintenant depuis 10 ans.
Voilà, que dure son pontificat. Mais voilà, il a pratiqué une politique des petits pas, c'est-à-dire qu'il a avancé sur certaines questions liturgiques, ouvrant certaines positions liturgiques, comme la position d'acolyte et de lecteur aux femmes, alors qu'elles étaient de manière très conservatrice, réservées aux hommes, créant des ministères nouveaux, donc des ministères de laïcs, comme le ministère de catéchistes. Les catéchistes en France et dans le monde entier sont très, très souvent des femmes, donc c'est une façon de reconnaître. Mais est-ce que le pape François ira jusqu'à ouvrir, ne serait-ce qu'un dossier sur lequel il a travaillé et fait travailler deux commissions, le diaconat qui est un ministère qui est réinventé par le Concile de Vatican II, est-ce qu'il ira jusqu'à l'ouvrir aux femmes? C'est des choses qui sont attendues par un certain nombre de catholiques. Est-ce qu'il ira beaucoup plus loin sur la question du célibat sacerdotal qui a été abordé au moment du synode sur l'Amazonie?
Il a dit qu'il ne toucherait pas à la question des prêtres.
Voilà. Alors, il faut aussi imaginer, et ça c'est peut-être un point à garder en tête, c'est que ça a été souligné dans le cas français où il y a aussi des controverses très fortes, une opposition farouche, c'est-à-dire qu'on réentend les réformistes, mais il y a aussi un camp conservateur extrêmement bien structuré, pour lequel toutes ces questions, notamment les questions de genre, sont des chiffons rouges, hein, qui tracent des frontières qui sont infranchissables. Et le pape François lui-même a une opposition extrêmement farouche avec laquelle il doit composer à Rome et dans un certain nombre d'épiscopats dans le monde entier. Voilà, donc c'est très compliqué, je pense, pour lui aussi.
Cette opposition, c'est principalement les freins qui perdurent.
Ben, c'est des freins, mais c'est des freins qui sont très structurés, très organisés, qui vont défendre une vision très sacrale de la prêtrise, qui vont...
Et qui pèsent encore très lourd aujourd'hui dans l'Église mondiale.
Bien sûr, qui
pèsent
très lourd dans l'Église de France. Hein, on les a beaucoup entendus au moment des mobilisations contre le mariage pour tous, hein, où cette droite catholique donnait l'impression d'avoir occupé tout l'espace catholique, avait complètement capté à son profit l'identité catholique. On voit que c'est plus compliqué que ça. Et à l'échelle mondiale, alors souvent on dit c'est les évêques africains qui sont les plus conservateurs. C'est assez faux. Il y en a des conservateurs, hein, le cardinal Sarah par exemple, mais vous avez des évêques nord-américains qui sont parmi les opposants les plus farouches du pape François.
Mais le pouvoir central reste au Vatican. On a souvent évoqué l'immobilisme de la curie romaine. Il y a une réforme de la curie qui est entrée en vigueur au début du mois, qui prévoit notamment de mettre sur le même plan tous les ministères, donc abolition des hiérarchies. Ça, ce sont des choses qui sont demandées. Ça peut faire évoluer un petit peu les mentalités, les choses, et donc vers davantage de réformisme.
C'est l'espoir, je pense, qui anime les catholiques qui s'engagent dans cette démarche synodale. Peut-être que ça sera un espoir en partie déçu. C'est difficile de se faire prophète ou prophétesse.
Père Grégoire Cata, comment vous jugez-vous ces demandes d'évolution? Est-ce que l'Église peut continuer ainsi à avancer? Est-ce que la demande de renouvellement doit être entendue? Ou est-ce qu'il y a encore le risque de continuer à perdre des fidèles?
Ouais, je crois que l'enjeu pour l'Église, c'est d'être fidèle à sa mission, quoi. Et d'être fidèle à sa mission, c'est d'annoncer une bonne nouvelle, quoi, et d'en vivre. Et donc, du coup, voilà, on n'est pas que dans le registre politique, on est sur un autre lieu. Et de fait, être fidèle à sa mission, c'est ça ce dont on fait l'expérience avec le synode, mais on l'avait fait aussi avec le Concile Vatican II. Être fidèle à cette mission profonde, être fidèle à Jésus-Christ, eh bien, ça passe par écouter les nouveaux appels, écouter la nouvelle manière dont l'Esprit parle aujourd'hui. Donc voilà. Mais après... voilà, c'est pas qu'une question de majorité et de minorité et que ceux qui sont les plus nombreux, ils vont l'emporter à un endroit. Non, l'enjeu pour nous, c'est que nous dit l'esprit. Mais pour se mettre à écouter l'esprit, eh bien, il faut s'écouter les uns les autres. C'est pas voilà, Dieu ne parle pas directement en prenant son téléphone et en nous disant ce qu'on a à faire. Il faut bien que voilà, on travaille entre nous. Et je crois que c'est l'enjeu de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Moi, j'ai cette image en tête, une image très, très forte. La première fois où j'ai participé et j'ai assisté à une assemblée plénière, c'est le moment où tous les évêques de France se réunissent deux fois par an à Lourdes. C'était en novembre 2018. Voilà, on prend une photo de groupe. On était tous à la sortie de la messe, tous les évêques en habits religieux, avec leur calotte violette, quelques prêtres comme moi en habits liturgiques derrière, et puis perdu au milieu de tout ça, un ou deux laïcs en costume, et puis une ou deux femmes qui exercent des responsabilités dans les services de la conférence des évêques. Même photo, 3 ans plus tard, au mois de novembre cette année, quoi. Eh bien, on a pris la photo avec... un moment où, dans l'assemblée plénière, il y avait plein des invités qui travaillaient avec les évêques, qui les aidaient à avancer sur l'écologie intégrale, des personnes ayant l'expérience de la grande précarité qui étaient venues aussi travailler avec les évêques. On était 300, tout le monde mélangé, des hommes, des femmes, certains en habits liturgiques, d'autres en habits civils. Voilà, eh bien, c'est symbolique, mais c'est deux images d'église un peu différentes. Et on voit que, voilà, moi, c'est ça ce qui me donne de l'espérance et de l'espoir. Et je crois fortement que, aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, avec la deuxième photo, eh ben, on témoigne davantage de la bonne nouvelle de Jésus-Christ.
Eh bien, on terminera par ces mots pleins d'espoir et ce mouvement qui est en marche, vous nous dites, Père Grégoire Cata, dans le cadre de ce synode des synodes qui s'achèvera donc en octobre 2023 à Rome. Merci beaucoup, jésuite directeur du Service national Famille et Société à la Conférence des évêques de France. Merci, Marie Autonne-Tepo, catholique, membre du collectif Tout Apôtre, créé en juillet 2020, qui demande que les femmes accèdent à des postes qui sont aujourd'hui réservés au clergé masculin. Et merci Céline Béraud, sociologue à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, membre du Centre d'études en sciences sociales du religieux. Merci à Florence Ponce à la préparation de ce débat du jour, Laurent Philippot à sa réalisation. Et restez à l'écoute, hein, dans une minute, notre édition spéciale à l'occasion de l'allocution du président français Emmanuel Macron.
Découvrez musique.rfi.fr. Retrouvez toutes les infos, la biographie, les vidéos et les émissions de RFI consacrées à Daft Punk. Sur musique.rfi.fr, vibrez en temps universel. Édition spéciale. Romain Ozoui.
Et bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez à l'écoute de RFI. Édition spéciale ce soir car dans moins de 2 minutes maintenant, le président Emmanuel Macron va s'exprimer depuis l'Élysée. Une prise de parole qui intervient 3 jours après le second tour des élections législatives en France qui s'est soldée par une claque pour la coalition présidentielle qui a hérité de la plus faible majorité relative à l'Assemblée nationale de l'histoire de la 5e République. Vous allez évidemment pouvoir suivre en intégralité l'allocution du chef de l'État et juste après notre analyse avec nos invités, le politologue Jean-Philippe Moinet, fondateur de la revue Civique, bonsoir.
Bonsoir, merci de votre invitation.
Et Julien Chavanne, bonsoir.
Bonsoir Romain, bonsoir à
Julien,
tous.
Julien, chef adjoint du service politique de RFI. Donc Emmanuel Macron va sortir de son silence 72 heures après le résultat des législatives.
Et oui, pas de son, pas d'image du président de la République depuis dimanche soir. Et cette gifle dans les urnes, on ne l'a pas vu, on ne l'a pas entendu. Donc ce soir, on peut s'attendre déjà à ce que le président nous dise disent aux Français, on vous a entendu après ce résultat dans les urnes. Ce qu'on peut également attendre de la prise de parole du chef de l'État, c'est de la clarté, parce que pour les Français, quand même, la période politique est assez compliquée, assez confuse, avec des prises de parole différentes qui parfois s'opposent au sein même du gouvernement ou avec les oppositions. Donc voilà, clarté et puis ce message, je vous ai entendu.
Et un mot sur le timing qui a été choisi pour cette prise de parole, ça intervient avant des échéances internationales.